RFI 18h à Port-au-Prince, 23h en temps universel et minuit ici à Paris. Le journal avec Paul Lancin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Une nouvelle vague d'échanges de prisonniers prévue ce jeudi entre le Hamas et Israël. 110 détenus palestiniens devraient être libérés. Le Hamas, de son côté, va remettre à l'État hébreu 8 otages. L'accord de cessez-le-feu à Gaza tient toujours et cela sera vital pour entreprendre le chantier titanesque de la reconstruction de la bande terrestre bombardée sans relâche pendant 15 mois. En Syrie, c'est lui qui avait mené la rébellion contre Bachar al-Assad jusqu'à faire tomber son régime début décembre dernier. Ahmad al-Shara a été nommé président de la transition ce mercredi. Une période de transition qui sera, elle, en place jusqu'à la mi-novembre en Haïti. Des élections générales devraient se dérouler à cette période selon Leslie Voltaire, le président du conseil de transition haïtien. Et puis, en Ligue des champions de football, soulagement pour le Paris Saint-Germain et Manchester City, qualifiés de dernière minute pour les barrages. Un troisième pas sur le fil tremblant de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël. Une troisième vague d'échanges de prisonniers qui aura lieu ce jeudi. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu ce mercredi une liste de 8 otages qui seront libérés par le Hamas. Israël, de son côté, va relâcher 110 prisonniers palestiniens. Ce cessez-le-feu de 6 semaines en cours laisse espérer aux Gazaouis une paix nécessaire à la reconstruction de l'enclave écrasée par les bombes durant 15 mois, la bande terrestre est aujourd'hui un amas de 42 millions de mètres cubes de gravats. Reconstruire les routes, les habitations, encore les hôpitaux, c'est un chantier qui pourrait prendre au moins 10 ans selon plusieurs ONG. Pierre-Olivier, il y a aussi désormais la question du financement qui se pose.
C'est la seule certitude, le chantier pour reconstruire Gaza sera gigantesque. Faute de moyens, c'est la communauté internationale qui devrait financer une grande partie des travaux. Pour Xavier Guignard, chercheur associé à Noria Research, contrairement à l'aide humanitaire, rien n'est acté pour payer la reconstruction.
Qui est chiffré aujourd'hui dans entre 100 et 200 milliards de dollars. Et c'est sur ce volet-là qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement ferme d'aucun des pays, soit de la région, le Qatar, l'Arabie Saoudite, entre autres, soit du Nord, parce qu'on ne sait absolument pas quelles vont être les conditions politiques pour le déploiement de cette aide.
Car la troisième phase de l'accord de cessez-le-feu prévoit de définir les termes de la reconstruction. Xavier Guignard.
Pour l'instant, il n'y a pas de détails pratiques qui sont mentionnés. Ça fait toujours partie des négociations en cours. La première volonté des pays potentiellement bailleurs, c'est de pas financer la destruction qui a été causée par Israël et surtout d'inscrire cette question de la reconstruction dans un processus politique, c'est-à-dire vers l'avancée d'une solution à deux États.
Une solution à deux États vers laquelle convergent aussi les pays occidentaux. Une conférence commune franco-saoudienne sur la reconstruction de Gaza pourrait avoir lieu d'ici le mois de juin prochain.
Pierre-Olivier, une nouvelle pierre ajoutée à la construction de la Syrie post-Assad. Ahmad al-Shara, l'homme fort du pays depuis la chute de l'ancien régime le 8 décembre dernier, a été désigné président de la transition ce mercredi. Les nouvelles autorités ont aussi annoncé la dissolution de l'ancien parlement et du parti Baas qui a gouverné le pays pendant 60 ans. Les groupes armés, organes politiques et civils qui avaient mené la rébellion contre Bachar al-Assad sont eux dissous pour être intégrés aux institutions de l'État. Et puis la constitution en vigueur depuis 2012 est également gelée. La transition politique qui prend également une nouvelle dimension en Haïti, où Leslie Voltaire, le président du conseil de transition, annonce ce mercredi que des élections générales se tiendront autour du 15 novembre prochain. Leslie Voltaire qui sera l'invité d'Arnaud Pontus ce jeudi à 6h20 temps universel sur RFI. Ce serait le tout premier scrutin organisé dans le pays depuis 2016. Les Haïtiens qui connaissent une situation sécuritaire extrêmement tendu. La capitale, Port-au-Prince, est quasiment totalement sous le contrôle des gangs. Un traitement choc pour combattre un diagnostic inquiétant. L'Union européenne a lancé ce mercredi sa boussole de compétitivité. Alors que les 27 marquent le pas dans la compétition à distance avec les États-Unis et la Chine, la Commission européenne a tenté de rectifier le tir avec un tout nouveau programme économique. Il s'agit d'une feuille de route politique tirée des rapports d'Enrico Letta et Mario Draghi qui avaient été présentés l'an dernier, Pierre Benazet.
Le premier pilier de ce plan européen très large, c'est donner une forte impulsion à l'innovation. Les cerveaux sont là, mais seulement un tiers des brevets enregistrés en Europe résultent en un produit commercialisé. L'UE veut aussi créer l'environnement qui permettra aux jeunes pousses de se lancer ou de croître. Elle veut pousser à l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui n'est utilisée que par 13% des entreprises européennes. Elle veut aussi créer ce qu'elle appelle un 28e régime. L'idée est de contourner les obstacles à la création d'entreprises que posent les 27 législations nationales, afin d'avoir un jeu de règles sur la faillite, le droit du travail, la fiscalité, pour faciliter l'accès au marché européen dans son ensemble. Il y aura aussi, je cite, « un choc de simplification » avec l'abandon de nombre de règles afin de faciliter la vie aux entreprises, ce qui s'accompagnera de la création d'un marché européen des capitaux, car les entreprises ont du mal à attirer l'investissement privé. La Commission veut aussi accélérer la décarbonation de l'économie, un investissement qui rapporterait une croissance de 2% de PIB sur la décennie à venir. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
S'entendre avec l'extrême droite sur un texte au Parlement, ce n'est plus tabou en Allemagne pour la droite traditionnelle. Les conservateurs ont conclu un accord ce mercredi pour adopter une motion afin de réclamer un renforcement de la politique anti-immigration. C'est la première fois qu'une telle entente a lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chancelier Olaf Scholz, qui risque de remettre son tablier en jeu lors des législatives qui se dérouleront dans un mois, évoque une alliance impardonnable. Au Bangladesh, des footballeuses contraintes de raccrocher les crampons sous la menace des islamistes. Dans le nord du pays, un match amical régional a dû être annulé ce mercredi. C'est la deuxième fois que cela se produit en une semaine, Carlota Morteo.
À Jaipurat, le terrain de foot du lycée où devait avoir lieu la rencontre entre deux équipes féminines du district a été vandalisé, les tribunes en bois brisées par des centaines d'islamistes qui s'étaient rassemblés pour scander, je cite, « le football féminin est contraire à l'islam ». La veille, un autre match féminin a dû être annulé en dernière minute dans la ville voisine de Dinajpur après une manifestation similaire où des hommes armés de bâtons ont fait irruption sur le terrain et provoqué des affrontements à coups de briques avec le public. Depuis 2011, le football féminin s'est beaucoup développé au Bangladesh grâce notamment à la création par la Fédération de foot bangladaise d'un tournoi scolaire pour les filles qui a fait émerger des talents de jeunes joueuses en short maillot, aujourd'hui très suivies sur les réseaux sociaux. L'équipe nationale féminine a d'ailleurs gagné la Coupe d'Asie du Sud-Est l'an dernier et se classe bien mieux que l'équipe masculine au niveau international. Mais depuis 6 mois, avec l'instabilité politique et les difficultés du gouvernement intérimaire de Mohamed Yunus à réformer le pays, les fondamentalistes religieux se manifestent de plus en plus dans l'espace public. Ils se sont aussi attaqués à des sanctuaires appartenant à la minorité soufie et à des communautés hindoues.
Carlota Morteo, en Ligue des champions masculine de football, une dernière journée de première phase en fanfare. Parmi les enseignements des 18 matchs joués en simultané ce mercredi, les qualifications en barrage du Paris Saint-Germain, vainqueur à Stuttgart 4-1, et Manchester City, grâce à son succès contre Bruges, 3-1. À noter également la soirée tranquille du Real Madrid qui s'est imposé 3-0 face à Brest. Liverpool termine en tête de cette première phase. Et puis, c'est même mieux que dépoussiérer leur dernier disque sorti il y a 5 ans. Arat Kilo, figure emblématique du jazz français aux inspirations éthiopiennes, vient de sortir le premier titre extrait de son prochain album, un opus qui va paraître le 7 mars prochain. Le morceau s'appelle Bendia. Lucie Bouteloup vous le fait découvrir. Bendia.
Bendia, on est à l'aise. Avec ce premier single, Arat Kilo nous invite ici à la détente. Le groupe, fondé en 2008 par 3 Français amoureux de jazz éthiopien des années 50, nous propose ici un titre à la rythmique diaboliquement efficace, mené par des claviers hypnotiques et des cuivres afro-jazz. À la voix, un duo d'exception, composé de la diva malienne Mamani Keita et du slammer américain Mike Ladd. I sleep 8 despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace seeps out my pores. I put in work before the score. Un titre résolument optimiste à l'image de Danama, ce 5e album dont il est extrait, Danama comme digne de confiance en Bambara. Un album entre tradition et modernité où se mêle la tetzeta, cette fameuse gamme pentatonique mineure typique du jazz d'Éthiopie, avec du hip-hop acoustique, des rythmes drum and bass, du swing ou encore des sonorités inspirées de la Nouvelle-Orléans. Une véritable célébration du métissage des cultures.
« découverte signée Lucie Bouteloup. C'est la fin de ce journal sur RFI. Il est presque 10:30 à Paris, 23h10 temps universel.